Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, au micro Armelle Lucas. Bienvenue dans votre émission Histoire d'en savoir plus. Près de moi dans le studio, Sœur Michèle Marchand. Bonjour Sœur Michèle.
Bonjour Armelle et bonjour à tous les auditeurs qui commencent à avoir l'habitude de m'entendre. Merci de m'inviter souvent.
Alors, je rappelle quand même qui vous êtes.
Oui.
Vous êtes responsable du centre spirituel au prieuré Saint-Thomas à Épernon. Un prieuré où vit depuis 1936 une communauté de Sœurs du Christ. Vous y proposez diverses animations et sessions en lien avec la spiritualité dont vous vivez, la spiritualité ignatienne, inspirée, comme son nom nous l'indique, par Saint Ignace de Loyola. Et Saint Ignace a fondé la Compagnie de Jésus, dont les membres sont connus sous le terme de jésuites. Oui. Alors voilà, j'ai prononcé ce mot un peu fourre-tout, hein. D'ailleurs jésuite, on ne sait pas trop, on va essayer de le redéfinir ensemble. Alors j'ai bien sûr pensé à vous, Sœur Michèle, pour nous aider à comprendre la spécificité de cette spiritualité. Parce que, comme nos auditeurs, moi j'ai plein de mots hein, qui viennent quand je pense jésuite. On a plusieurs choses en tête. Un style d'église particulier, des écoles, Ignace de Loyola, les exercices spirituels, une activité missionnaire plutôt zélée, etc. etc. Alors, première question, Sœur Michèle. Historiquement, d'où vient ce terme de jésuite et de quoi ou, et de qui parle-t-on à travers ce terme?
Alors, à travers ce terme de jésuite, on parle de la Compagnie de Jésus. C'est-à-dire que Ignace de Loyola a rassemblé autour de lui des hommes qui voulaient vivre avec lui pour la même mission. Et il se disait, non pas être des militaires dans une compagnie militaire, mais il se disait être, vivre dans la compagnie de Jésus, dans l'amitié de Jésus. Et le mot jésuite vient de Jésus.
D'accord.
Mais bien sûr, on devrait peut-être parler un peu plus large que de jésuite. Il ne s'agit pas seulement de la spiritualité jésuite. Cette spiritualité d'Ignace de Loyola a bien sûr s'est développée bien au-delà de la Compagnie de Jésus, bien au-delà des jésuites, puisque elle fait vivre aussi beaucoup de congrégations religieuses et beaucoup de groupes de laïcs, beaucoup de groupes d'enfants, le MEJ, et de spiritualité ignatienne.
Mouvement eucharistique des jeunes,
voilà. Le MEJ, par exemple, la communauté vie chrétienne pour les laïcs, et puis beaucoup, beaucoup de congrégations religieuses, oui, de par le monde, qui vivent de cette spiritualité. Donc les jésuites eux-mêmes refusent qu'on dise spiritualité jésuite. Ils disent que Ignace de Loyola, leur fondateur, et les exercices spirituels, qui sont une manière de faire vivre sa spiritualité, ne leur appartiennent plus. Tout cela appartient à l'Église entière.
Est-ce que vous pouvez resituer l'époque d'Ignace de Loyola?
Oui, Ignace de Loyola serait né en 1491, c'est-à-dire la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance. C'est aussi une période extrêmement intéressante parce que c'est une période de grandes découvertes et de grands changements dans le monde connu de ce temps-là. C'est bien sûr Christophe Colomb, Vasco de Gama. C'est aussi l'époque du protestantisme, Erasme, Luther, donc des grands bouleversements dans l'Église et hors de l'Église. C'est aussi la période de la Renaissance, c'est-à-dire d'abord des guerres d'Italie qui ont fait que cette manière de penser, de construire aussi, cette manière d'œuvre d'art, s'est développée dans toute l'Europe et a créé un changement dans la manière de considérer l'homme, les hommes, l'homme, la conscience humaine. On ne vit plus en groupe de chrétiens un peu indéfinis du point de vue des individus, on vit dans sa propre conscience. Et donc l'homme, l'individu, devient extrêmement important dans la manière de se penser.
Il devient autonome.
Complètement autonome, oui. Il a le droit, le devoir de penser de façon autonome.
Il a les outils pour le faire?
Oh, je pense qu'il les a dans les exercices spirituels, mais dans aussi, vous savez, dans les grands auteurs de ce temps-là, oui, bien sûr.
Pour une certaine catégorie de personnes, malgré tout.
Pourquoi
tout le monde
donc
n'a pas accès à la lecture, aux livres?
Ah oui, bien sûr. Ignace de Loyola, pour commencer dans sa jeunesse, je vais vous raconter son histoire, mais bien sûr que l'imprimerie n'est pas encore tellement développée. C'est vrai.
C'est...
Même dans une famille noble comme celle d'Ignace.
Vous allez nous parler d'Ignace de Loyola dans quelques minutes, mais aujourd'hui, ça représente quoi cette compagnie de Jésus dans le monde ? Et en France particulièrement aussi.
Alors, comme je savais que vous me poseriez la question, j'ai cherché sur Internet, mais je ne sais pas plus que ça. Entre 17 et 18 000 jésuites.
D'accord.
Mais bien sûr, c'est impossible de savoir combien d'ignatiens ça représente. Il y a 25 000 membres de la communauté vie chrétienne dans le monde. Mais je n'ai pas fait de recension des congrégations ignatiennes dans le monde, ni du Mège dans le monde, ni d'autres mouvements qui se réclament quelquefois. Quelques scouts peuvent se dire ignatiens. Enfin, c'est impossible de faire une recension complète.
D'accord. Alors, on a parlé d'Ignace de Loyola, de cette spiritualité ignatienne. Donc, apparemment, donc vraiment, lui, il en est à l'origine.
Oui.
Et alors, comment la définir ?
On ne peut pas la définir sans raconter son histoire. Lui-même ne définit pas, lui-même n'a pas écrit autre chose que sa propre expérience. À travers son autobiographie qu'on lui a demandé d'écrire à la fin de sa vie, et c'est là qu'il raconte ce qu'il a vécu intérieurement, de manière spirituelle, mais aussi à travers ce petit livre qu'il appelle « Les exercices spirituels ». Il n'a écrit cela qu'à partir de son histoire, sa propre histoire, en regardant ce qui se passait en lui. D'où l'importance que je donnais tout à l'heure à la conscience. Et pas la conscience toute seule pour Ignace, mais la conscience dans sa relation à Dieu. Alors, regardons l'histoire d'Ignace, si vous voulez bien. Hein. On va prendre le temps de faire ce détour, parce que lui-même n'accepterait pas qu'on parle de sa spiritualité sans parler d'expérience. Alors, donc, Ignace est né à la fin du XVe siècle. C'était un homme plutôt bien fait, qui était très soucieux de son apparence physique. Il était dans les derniers d'une famille noble, de petite noblesse en Pays Basque, assez têtu, assez volontaire et très ambitieux. Pourquoi très ambitieux ? Parce que un garçon qui naît dans les derniers de la famille n'a pas beaucoup de chances de se faire une situation, sauf à la force du poignet. Donc, il s'arrange pour être au service, être admis au service d'un grand noble, d'un grand aristocrate. Il devient page. Il fréquente la cour et il est promis, là, un grand avenir. Il dit, dans son autobiographie, dans ses premières expériences spirituelles, si on peut dire, qu'il était amoureux d'une dame de haute naissance, de très haute naissance. On peut penser que c'était l'infante d'Espagne, qu'il a dû rencontrer plusieurs fois. Seulement, qu'est-ce qui se passe dans sa vie ? Au bout d'un certain temps, son employeur, si on peut dire, ce grand aristocrate, est déchu de sa charge. Et donc, Ignace ne trouve plus aucun intérêt à être à son service. Donc, il cherche une autre manière de faire. Alors, arrive ce jour de 1521, où il vient avec quelques hommes... prêter main forte au siège de Pampelune, c'est-à-dire qu'on est dans une bataille entre Charles Quint et François Ier. Et il dispose d'une petite troupe et il vient prêter main forte donc aux Espagnols qui sont là pour le siège de Pampelune. Les deux armées sont très très inégales. Les responsables et les bourgeois de la ville de Pampelune sont d'accord pour remettre les clés de la ville aux Français, parce qu'ils sont vraiment en sous-nombre et que c'est folie que de combattre. Ignace refuse et arrive à convaincre tout le monde de résister. Au bout de quelques heures, il reçoit un boulet de canon dans la jambe est fracassée et la bataille s'arrête. Pourquoi a-t-il fait ça ? Il a fait ça pour se faire un nom. Il préfère finalement être blessé, peut-être blessé à mort, plutôt que vivre en étant n'importe qui. Donc, une immense ambition. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Il est transporté au château de Loyola, sur une civière. On essaye de le soigner. Il trouve que l'os est mal remis, l'os dépasse, et donc il ne pourra pas porter les vêtements collants qui le mettent en valeur à la cour. Et donc, il demande de recasser l'os, bien sûr sans anesthésie, hein, voilà. De recasser l'os et de tout remettre correctement. Dans d'immenses souffrances. Mais il préfère ça encore, lui, cet homme ambitieux, qui soigne son physique, ses cheveux, sa moustache. Et il se trouve entre la vie et la mort, mais finalement, il survit et peu à peu, il va mieux. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire pendant sa convalescence? Bien sûr, on peut l'imaginer dans sa chambre, dans ce château un peu moyenâgeux de Loyola. Il s'ennuie et donc il demande à sa belle-sœur, puisque son frère aîné est marié et il vit donc maintenant chez son frère aîné, il demande à sa belle-sœur de lui fournir des livres. Il y a dans ce grand château 2 livres. Il y a une vie du Christ et puis quelque chose qui raconte les hauts faits des saints. Donc il se lance dans cette lecture. Et puis, il remarque 2 choses. Que de temps en temps, il rêve à son passé, à la situation qu'il aurait pu se faire. Il rêve aussi à cette dame. Il a des rêveries amoureuses longues. Et puis après, il lit ses livres et il se dit « Et si je faisais comme Saint Dominique? Et si je faisais comme Saint François ?» Et il rêve à la Vierge aussi, qui est décrite dans ses livres, le comportement de la Vierge. Et donc ces rêveries, vous voyez qu'on passe par l'expérience très concrète de quelqu'un, ces rêveries passent du service du Seigneur, de Charles Quint, au service de notre Seigneur, et ces rêveries passent du service de Notre-Dame, la Vierge, au service d'une autre dame, l'infante d'Espagne. Et donc, pendant des mois, puisqu'il est convalescent pendant des mois, ses rêveries passent de l'un à l'autre, et il a le temps de constater ce que ça produit en lui. Et il se rend compte peu à peu que lorsqu'il rêve de sa dame et de servir Charles Quint, ses rêveries le laissent après, sec, et puis pas très heureux. Mais lorsqu'il rêve de faire comme Saint Dominique ou Saint François, ou servir la Vierge, ou servir son Seigneur, il est plus allègre, plus heureux, plus dynamique. Alors, il découvre une première chose. C'est que ça lui servait à quelque chose d'être ambitieux. C'est en train de changer son ambition en immense désir. Son ambition se retourne un peu. Et puis une deuxième chose, c'est que servir notre Seigneur, son Seigneur, le rend plus heureux, finalement, au moins de l'intérieur, dans ses rêveries, le rend plus heureux que son ambition terrestre ou son désir amoureux. Alors il tire ces conclusions-là et il choisit le bonheur, c'est-à-dire qu'il choisit de renoncer à tout ce qu'il avait fait vivre jusqu'à maintenant et de quitter, quand il pourra le faire physiquement, hein, quitter ce château de Loyola et mener une autre vie.
Sœur Michèle, on va peut-être faire une petite pause musicale hein, au milieu de cette histoire un peu très très belle. On se retrouve juste après?
Oui, si vous voulez.
Merci.
Thank you.
Chers auditeurs de Radio Grand-Ciel, nous retrouvons notre invitée, sœur Michèle Marchand, dans Histoire d'en savoir plus, sur les jésuites. Et nous allons retrouver Ignace de Loyola, qui est...
Qui s'en va comme pèlerin, voilà. Qui s'en va à pied, pour la plus grande honte de son frère aîné, qui le voit partir à pied. C'est la honte de la famille. Il s'en va donc en direction de Jérusalem, peut-être. Il s'arrête à Montserrat, et là, il fait une confession générale de sa vie. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il a été vraiment quelqu'un d'épouvantable. Il dira plus tard qu'il a commis tous les crimes, sauf le meurtre. Donc on peut imaginer sa jeunesse. Hein. Il fait une confession générale, puis il s'en va vivre à l'hôpital, c'est-à-dire un lieu d'accueil de Morez. Et qu'est-ce qu'il vit là? Il voudrait d'une part effacer de sa vie tous ses péchés, donc il est pris de scrupules, il veut se confesser tous les jours, tous les 8 jours, etc. Et puis, il s'impose des pénitences, comme il imagine que saint Dominique et saint François s'étaient imposés. Des pénitences extraordinaires, bien trop grandes. Il tombe malade, il arrête de se couper les cheveux, de se couper les ongles, etc. Et il tombe en déprime. Et finalement, il réalise quoi? C'est encore une autre découverte. Que faire des grandes choses, que la sainteté n'est pas entre nos mains. Que c'est quelque chose qui nous est donné par Dieu, par grâce, que nous ne pouvons pas devenir un saint parce que nous le voulons. Bien sûr que notre volonté a quelque chose à voir avec, mais il apprend l'humilité dans les mains de Dieu. Et lorsqu'il a découvert ça, Dieu le comble de découverte de ce qu'il est, lui, Dieu. Il lui apprend l'incarnation, l'Eucharistie, la Trinité. C'est ce qu'on appelle l'illumination du cardonnaire à Morez. Voilà encore donc une page importante. Et puis donc, pour aller très vite, il veut aller à Jérusalem. Il traverse donc l'Espagne, il traverse l'Italie, il réussit à trouver un bateau qui va bien vouloir l'embarquer. Il arrive à Jérusalem pour mettre ses pas dans les pas du Christ. C'est ça son idéal. Donc il visite les lieux saints dans le plus grand bonheur. Seulement, il n'a pas le droit de rester. Pourquoi? Parce que les Turcs sont là, et donc s'il est pris comme prisonnier, eh bien l'Église devra payer une rançon pour lui. Donc il est interdit aux Européens de rester là, par une décision de l'Église. Et lui veut rester, mais lorsqu'il entend dire qu'il s'agit d'une décision du pape, enfin il accepte. Il accepte. Et cette obéissance à l'Église restera quelque chose d'extrêmement important dans la spiritualité ignatienne. Mais aussi, pourquoi voulait-il mettre ses pas dans les pas du Christ? Il voulait retrouver les mêmes paysages, vivre comme lui, vivre la pauvreté, vivre la persécution, vivre dans ce paysage, vivre peut-être la contradiction. Il voulait revivre de la vie du Christ, mais il se rend compte qu'en fait, on peut revivre tout ça ailleurs. Et que lorsqu'on prie, on peut se mettre dans la scène, imaginer le lieu, et que ce que dit Jésus aux gens qui l'entourent, il nous le dit à nous aussi. Donc, cette manière de retrouver l'incarnation, il la retrouve autrement dans son propre temps et dans sa propre vie. C'est encore une grande découverte d'Ignace de Loyola qui remplit sa manière de prier. Et puis il revient à Barcelone et il commence à avoir comme immense désir d'aider les âmes, c'est-à-dire de conduire un petit peu les gens à un progrès spirituel comme lui l'a vécu. Aider les autres à découvrir comment avancer dans leur foi, en fonction de leur situation personnelle, en fonction aussi de leur psychologie, puisqu'il sait que sa psychologie, à lui, a une grande influence sur sa conversion. Donc il veut aider les âmes. Il rassemble quelques compagnons à Barcelone, dans différentes villes d'Espagne, mais chaque fois, il est soumis à un questionnaire de l'Inquisition, et l'Inquisition le met souvent en prison. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les diplômes pour faire cela. Uniquement les prêtres ont le droit de faire cela. Des personnes qui sont d'abord ordonnées et ensuite qui ont fait les études suffisantes. Alors, puisque l'Église ne l'autorise pas à faire cela, et que c'est pourtant ce qu'il se sent profondément appelé à faire, eh bien, à 37 ans, il va aller à Paris pour recommencer des études. Et à 37 ans, à Paris, il se retrouve sur les bancs de l'école avec des jeunes écoliers pour apprendre le latin et la grammaire, sans aucune honte de sa part. Il sait que c'est ça que Dieu veut, il le fait. Puis il fera de la philosophie, de la théologie, et il pourra devenir prêtre. Il va vivre là, à Paris, avec quelques co-chambristes à qui il va faire la même expérience. Pierre Favre, François-Xavier, François II-Xavier, qu'on appelle François-Xavier maintenant, qui sont les premiers jésuites. Puis il rassemble un groupe de compagnons et on va avoir le groupe des jésuites.
Et la compagnie de Jésus.
Et la compagnie de Jésus, c'est-à-dire l'amitié de Jésus.
Voilà, oui. Mm-hmm. Être en compagnonnage avec
voilà,
Jésus.
Exactement, voilà, vous avez trouvé les mots justes.
Alors, maintenant, je voudrais proposer une petite blague, puis vous nous expliquerez après, Saint-Michel.
Oui, oui.
Alors, un jour, un jésuite débarque à Rome et aborde un dominicain pour lui demander le chemin de la basilique Saint-Pierre. « Mon père, lui dit le dominicain, vous ne trouverez jamais, c'est tout droit. » Alors, mais qu'est-ce qui se passe, Saint-Michel, entre les dominicains et les jésuites? On entend souvent, alors, c'est ennemis, concurrents, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe entre eux?
Alors, les dominicains et les jésuites ne sont ni ennemis ni concurrents, ils travaillent souvent ensemble, mais ils ont une spiritualité différente. Donc, quelquefois, les uns se moquent de la spiritualité des autres. Alors, c'est vrai que lorsque vous demandez à un jésuite un conseil sur la conduite que vous devriez prendre, il ne vous donnera jamais une réponse directe. Il ne vous dira pas « tu dois faire cela ». Il vous dira « comment tu te sens si tu choisis telle option ? Est-ce que ça te donne plus de joie, plus de liberté ? Et si tu choisis telle autre, est-ce que ça t'enferme ? Est-ce que ça retire de toi tout ton dynamisme ou bien le contraire ? Dieu veut ton bonheur, va vers ce qui te fait grandir. » Et puis, il vous dira aussi, qu'est-ce que dit l'Église ? Donc, prendre une décision, en retraite par exemple, ça se fait en prenant un petit peu de temps. Jamais un accompagnateur spirituel de spiritualité jésuite ne vous dira, tu dois faire cela. Voilà, donc ça peut paraître un peu plus compliqué qu'une réponse directe.
C'est ça qu'on entend par la pensée jésuite, si on peut dire,
oui.
ou un caractère jésuite. Par rapport aux dominicains, alors, c'est pas la même spiritualité.
Je ne peux pas vous parler de la spiritualité dominicaine.
On fera venir un dominicain qui va nous en parler aussi.
Oui, je risquerai de dire des choses pas tout à fait exactes. Donc,
d'accord. Alors, j'espère que nous avons donné envie à nos auditeurs de creuser un petit peu plus la question jésuite. Hein. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller comme lecture ? Voir aussi s'ils veulent un petit peu tâter cette spiritualité, vers qui se tourner ?
Voilà.
Est-ce que vous
Alors,
avez des choses à proposer ?
Pour tâter de cette spiritualité, il faut commencer par faire une petite retraite. Au moins passer 24 heures au prieuré Saint-Thomas, par exemple, avec l'aide de quelqu'un qui vous accompagne. Il y a quelques sœurs au prieuré qui peuvent le faire. On peut me demander de le faire, bien sûr. Beaucoup de gens viennent régulièrement. On peut faire une retraite un peu plus longue, normalement au moins 4-5 jours. Mais on peut commencer par 2 jours. Et il y a plein de propositions au prieuré. Il y a une retraite à durée choisie, au mois de novembre, une autre de 5 jours au mois de décembre, une autre de 2 jours au mois de janvier et d'autres après, tout au long de l'année. Une retraite pour les familles aussi. Bien. Donc, avant de lire, il faut faire comme Ignace, expérimenter. Et certainement pas lire les exercices spirituels. Vous n'y comprendrez rien. C'est un livre qui est fait pour l'accompagnateur. Ce sont des conseils pour l'accompagnateur.
D'accord.
Vous pouvez l'acheter, essayer de le lire, mais vous trouverez ça très rébarbatif. Bien sûr, il existe quelques bons livres de base. Il y a d'abord « Qui es-tu, Ignace de Loyola ?» de Jean-Claude Dautel, qui était un grand spécialiste. Donc, je redis « Qui es-tu, Ignace de Loyola ?» de Jean-Claude Dautel, aux éditions Vie chrétienne. Ce livre vous fera refaire le même itinéraire, en beaucoup mieux que celui que je vous ai fait faire en racontant la vie d'Ignace. Il y a aussi son autobiographie, puisque ses amis, les jésuites, lui ont demandé de raconter sa vie et de raconter ses expériences. Voilà le texte intégral du récit autobiographique Ignace de Loyola par lui-même. C'est aussi aux éditions Vie chrétienne.
Eh bien, très bien. Nous sommes Merci. Arrivés à la fin de l'émission. C'est bien dommage.
Merci
C'était
à vous.
Passionnant. Merci, Sœur Michel. Alors, chers auditeurs, voici une émission à méditer en la réécoutant sur radiograndciel.fr. Nous mettrons les références des ouvrages cités. Alors, merci beaucoup à Simon aussi à la technique. Et à tous, à très bientôt sur l'antenne de Radio Grand Ciel. Au revoir.